Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs de la radio Capi. Tribune des Presse parle du récent rapport de droits de l'homme en République démocratique du Congo, où des Congolais ont été tués la nuit de lundi à mardi dans les territoires de Lubero, au nord Kivu. Au moins 70 civils ont été tués, une vingtaine d'autres portés disparus, et plusieurs habitations ainsi que des véhicules incendiés dans la localité de Toyo, située à 7 km de Mangurudjipa. Que dire de la dignité humaine dans le nord Kivu? Au deuxième sujet, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a tiré la sonnette d'alarme mardi 9 septembre. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a présenté les conclusions accablantes de la mission déployée en République démocratique du Congo, pointant du doigt toutes les parties impliquées dans la récente escalade des violences dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Comment les journalistes congolais analysent-ils la situation du droit de l'homme dans leur pays? Ils participent à ces débats radiophoniques. J.R. Mokolo, journaliste travaillant ici à Kinshasa. Bonsoir doyen.
Bonsoir Freddy Bikumbi, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi, la radio de la paix. Je salue aussi mes co-débatteurs, confrères journalistes avec qui on va partager en tout cas ces studios de Radio Capi, Tribune de la Presse.
César Olombo, bonsoir.
Bonsoir Freddy Bikumbi, merci pour cette invitation, je me sens honoré ce soir.
Vous êtes journaliste à DeskEcho.com et magazine Baptiste Africa.
En effet.
Israël Toumba, journaliste à la chaîne Bosolo, ici à Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir Freddy, bonsoir aussi à tous mes collègues co-débatteurs avec moi. Je me sens heureux de partager cette table de la Tribune des Princes ce soir.
Fidèles auditeurs, bienvenue. Chers confrères, en une minute chacun, veuillez commenter si vous en avez une information ou actualité de votre choix au courant de cette semaine. On y va avec le doyen J.R. Mokolo.
Oui, en tout cas, le sujet qui m'a frappé cette semaine, c'est la pétition contre les bureaux de l'Assemblée nationale et même contre aussi les bureaux du Sénat.
C'est
moi,
une
rumeur. Je me dis, donc c'est pas une rumeur.
Ou c'est déjà boutiqué.
La pétition est là et les signataires en tout cas passent dans les médias, ils confirment. Donc ça existe. Mais la question qu'on se pose, est-ce que c'est vraiment opportun? Est-ce que c'est le sujet qui devrait en tout cas concentrer toute l'attention, toute l'énergie des députés nationaux et même des sénateurs? Parce qu'ils disent que c'est pour des raisons d'ordre social. Et ils ne sont pas socialement, en tout cas, à l'aise par rapport aux élus de la législature passée où on avait Mboso Kodiaponga au perchoir de l'Assemblée nationale, par exemple, et que maintenant, là, leur train de vie a baissé. Et pourtant, le gouvernement avait décidé, avec l'ensemble des institutions, qu'on devait en tout cas baisser les trains de vie des institutions. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que le fait que le gouvernement ne donne pas suffisamment d'argent à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et que c'est la faute au président ou aux membres du bureau.
Mais peut-être les députés nationaux trouvent maintenant quoi faire, parce que à quoi leur intérêt au pays?
Ils ne sont pas représentants de leur propre famille ou de leurs propres intérêts. Et il est vrai, ils doivent défendre les intérêts de la population. Ce qui se passe à l'Est, par exemple, on a eu dernièrement là une dame qui est décédée dans un hôpital de la place parce qu'elle n'a pas été prise en charge. On lui demandait une caution de 5000 dollars, par exemple. Je crois les questions d'ordre social qui doivent préoccuper en tout cas nos élus du peuple, à moins qu'ils soient élus de leur propre famille.
Merci. À vous, César Olombo, quelle est l'actualité ou l'information que vous voulez commenter?
Alors, moi, il y a un fait qui m'a frappé. J'étais choqué par ce qui s'est passé après la rencontre sportive entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Léopards de la RDC.
8e journée de l'éliminatoire mondial.
Tout à fait. Parce que je pense qu'à un certain niveau, les citoyens doivent respecter les biens publics. Les édifices publics sont là parce qu'il y a un État qui les a construits pour que nous puissions être dans les bonnes conditions. Mais quand vous prenez les, quand vous donnez la, vous détruisez facilement ces édifices-là, est-ce que nous réfléchissons, est-ce que nous pensons à ce que nous faisons? Parce que ici, je me dis, je m'interroge en fait, qui portera ses responsabilités de toutes les chaises qui ont été déchiquetées au niveau des stades des martyrs? Qui va les porter? Plus de 3 jours, 72 heures après, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut justifier ce qui s'est passé là-bas? Parce qu'on a comme l'impression que l'État ne servent plus à rien dans ce pays, parce qu'on a comme l'État ne gère plus la population. Parce que quelle image que vous voudriez que les autres retiennent de nous? Ce match-là a été diffusé partout dans le monde. Je vous rappelle que ce match-là a été diffusé partout dans le monde. Mais est-ce que vous imaginez...
C'est l'esprit qui nous a.
Non, je pense que l'État
ne devrait pas l'esprit sportif. Hein.
Je pense que l'État ne devrait pas se laisser faire, ne devrait pas se laisser marcher sur les orteils. Parce que comment peut-on accepter que cela se passe alors qu'il y a une police qui était censée contrôler ces matchs, qui était censée sécuriser ces matchs? Je crois qu'à ce stade-ci, il y a besoin d'explications. Parce que je crois fondamentalement que nous, peuple congolais, méritons des explications par rapport à ce qui s'est passé au stade des martyrs. Et ici, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement congolais. Parce que quand un match au niveau national ou mondial se joue, c'est l'État qui est censé sécuriser la population. Et comment doit-on expliquer que l'État qui est censé sécuriser ne fait pas son job? Parce que c'est réellement ce qui s'est passé. Parce que quand vous voyez le supporter venir déchiqueter les chaises, jeter des bouteilles en plastique sur le terrain, on s'est dit, mais finalement, est-ce que l'État n'a-t-il pas perdu les monopoles de violence légitime?
Ça se passe aussi en Europe. Dans les stades.
Oui, ça, mais pas à ce niveau-là. Je pense qu'à un certain niveau, il faut que l'État puisse assumer ses responsabilités. Mais chose qui n'a pas été encore observée jusque-là. J'estime que l'État congolais a perdu ses lettres de noblesse. Et je l'appelle à retrouver les bons sens.
Merci bien. Nous allons avec vous, Israël Ntumba.
Je commence par d'abord la situation de la démolition qui... a recommencé encore une fois de plus dans la ville de Kinshasa. Récemment, vous avez vu dans les réseaux sociaux, j'ai vu une image qui m'a beaucoup accablé. C'était une dame qui s'est retrouvée dans un engin d'une société en place. Pourquoi? Parce que sa maison était détruite et puis ses étalages étaient détruits. Et finalement, la dame avait décidé de marcher dans l'engin, ne permettant pas assez que cette société-là puisse continuer son travail. Il y avait même un agent qui était en train de l'interpeller, mais la maman était en train de pleurnicher. Elle pleurait. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été détruit, malgré les promesses qui étaient faites par l'autorité provinciale de pouvoir cautionner quelque chose en rapport avec... cette destruction n'a pas été faite et cette histoire avait tiré beaucoup mon attention vu que ce sont de paisibles citoyens. Aujourd'hui, on parle des sociales du peuple congolais. Les sociales du peuple congolais, c'est vrai, lorsqu'on veut détruire pour libérer les emprises publiques, on doit aussi savoir qu'on a une population qu'on doit protéger et comment est-ce que l'État devra se prendre en compte, parce que c'est vrai qu'on veut libérer les emprises publiques, mais il faut tenir aussi compte de les revendications quand même de la population congolaise. Vous détruisez aujourd'hui toute une famille, une mère qui a 2 enfants, qui les fait nourrir au travers son job là, et demain après demain cette maman là n'est pas récompensée, la parcelle n'est pas restituée, ou soit des moyens ne lui ont pas été donnés pour peut-être sa survie. Vous voyez que vous créez encore des problèmes sur d'autres problèmes, mais également aussi c'est le problème de cette motion de dans le camp de la majorité au pouvoir, parce qu'ils sont tous des lions sacrés de la nation. Vous avez l'UDPS qui essaye de contraindre son allié habituel qui est l'UNC de Vital Kamerhe qui aujourd'hui est au perchoir, et là il y a un couac qui s'est fait voir au sein de la majorité présidentielle. C'est vrai qu'il y a deux appels qui viennent de part et d'autre pour l'UDPS. Ils sont légitimes, ils doivent agir dans toute légitimité, mais l'UNC de l'autre côté, ils pensent que c'est une manière de fragiliser déjà cette paix qui s'est retrouvée déjà entre les deux formations politiques. Et tantôt les autres parlent d'une motion alimentaire, mais les autres de l'autre côté parlent de la mégition du président de l'Assemblée nationale. Là, il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce que réellement il y a la paix au sein de la majorité au pouvoir, l'union sacrée de la nation? On interpelle le chef de l'État, c'est lui-même qui est le garant des institutions, bien entendu, mais au-delà de ça,
il faut voir la gestion des uns et des autres. Est-ce que au niveau du Sénat, est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les choses se passent normalement? Moi, j'aurais souhaité que les députés qui ont déjà entamé ce processus de faire cette motion contre le bureau de l'Assemblée nationale et même du Sénat, s'ils trouvent que leurs démarches sont normales, je ne peux que les encourager. Mais que ça ne soit pas des motions alimentaires, parce qu'on a appris encore qu'il y a des enveloppes qui ont circulé, surtout au niveau du Sénat. Mais ce sont des informations, ce sont eux-mêmes qui nous livrent ces informations. Nous ne pouvons pas commenter que ce qu'ils livrent eux-mêmes. Pensons que le chef de l'État, en tant que garant des institutions, et surtout qu'on s'avance déjà vers la rentrée parlementaire, l'État devrait veiller, et surtout le chef de l'État, à pouvoir mettre de l'ordre au sein de la majorité présidentielle. Parce Merci que bien. Si la famille est déjà troublée au sein du fait qui commence à l'intérieur, voyez déjà les conséquences.
Eh bien, dans les territoires de Lubero, notre premier sujet, au Nord Kivu, au moins 70 civils ont été tués, une vingtaine d'autres portés disparus et plusieurs habitations ainsi que de véhicules incendiés. C'était la nuit de lundi à mardi lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF dans la localité de Toyo, située à 7 km de Mangurudjipa, chef-lieu du secteur de Bakpere, en territoire de Lubero. Marc Marofimbo nous en dit plus.
L'attaque de Toyo par les ADF a eu lieu vers 22h, heure locale. Les assaillants ont tué des civils à l'arme blanche et par balle alors qu'ils participaient à une veillée mortière. Les chefs du secteur de Bapere, Maker Sovikunula, fait état d'un bilan provisoire de 71 morts, 8 blessés, 14 maisons ainsi que plusieurs véhicules et motos incendiés. Il évoque également une vingtaine de disparus. L'arrivée rapide des forces conjointes FRDC-UPDF basées à Mangurudjipa a permis de limiter l'ampleur des dégâts. Mais la société civile déplore que les alertes adressées aux services de sécurité sur la présence des rebelles n'aient pas été prises en compte. Après leur forfait, les assaillants se sont retranchés dans la forêt à l'ouest de Toyo où les FRDC et les UPDF mènent actuellement des opérations de ratissage. Les autorités militaires et administratives confirment l'attaque et promettent de s'exprimer bientôt. De son côté, les conseillers du gouverneur en charge des affaires humanitaires appellent les organisations spécialisées à venir en aide aux victimes. Sur place, toutes les activités socio-économiques sont paralysées. La population est en deuil, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. Beni Makmarofimbo, Radio Okapi.
Merci à vous, Marc Marofimbo Marof. À ces massacres des civils à Lubero, disons aussi qu'à Beni, vers Oicha, 18 agriculteurs ont été tués par les rebelles de ADF à Fotodou. C'était mardi dernier et enterré le mercredi au cimetière public d'Oicha. Présent à ces obstacles, de milliers d'habitants venus réconforter le membre des familles éprouvées. Et le jeudi 11 septembre a été une journée de deuil décrétée par la société civile en mémoire des disparus. Comment voyez-vous ce phénomène des tués sans pitié de Congolais, Israël Ntumba?
Merci beaucoup de la parole, cher confrère. Je commence d'abord par présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées des Lubero, de l'est du pays, des Toyo et partout, qui sont massacrés, tués, des civils innocents, des enfants, des femmes, sans tenir compte de l'humanisme. Et ça nous fait très mal. D'abord, c'est un regret de voir que le gouvernement congolais n'a pas pu décréter un deuil national.
Mais c'est la population, hein?
Justement.
C'est la population, la société civile.
Oui, justement.
De Oicha.
Oui, cette société, c'est moi, je pense
c'est
que
pas c'est, le gouvernement.
C'est au niveau d'abord du gouvernement. C'est le gouvernement national qui devrait d'abord prendre cela à bras le corps, parce que ce sont ses concitoyens qui sont tués, ce sont ses concitoyens qui sont massacrés, et l'idée est bonne parce qu'elle est partie de la société civile, mais c'est au moins, elle devrait débiter par le gouvernement central. Mais je crois, j'ai compris peut-être que le gouvernement était plus préoccupé par le match de football qui était au stade Martyr. Et il était préoccupé par conséquent peut-être pour ceux qui vivent ici à Kinshasa, sur qu'il est dans de voitures, de luxe, et s'est retrouvé dans de bureaux climatisés, mais sans tenir compte de ce qui se passe à l'est du pays.
Mais pourquoi Freddy, on tue à Beni, à
Freddy Bikumbi, c'est ça la question que tout Congolais digne de son nom peut se poser. Pourquoi les tueries toujours à Beni? Pourquoi les tueries toujours à l'est du pays?
Je commence par vous dire une chose. Aujourd'hui, on parle du phénomène EDF. Nous devons comprendre le phénomène EDF à commencer où, quand, et cela provient d'où. Les EDF, ce sont des Ougandais. La première des questions que je me pose en tant que citoyen congolais, pourquoi les EDF ne tuent pas en Ouganda où ils sont venus? Pourquoi ils ne massacrent pas les Ougandais où ils sont ressortis? Et pourquoi les EDF ne viennent que faire leur abattoir en République démocratique du Congo? Il y a des questions qu'il faut se poser.
Et donc, ce ne sont pas des Ougandais.
Je ne firme ni infirme, mais ils viennent de l'Ouganda. Ils proviennent de l'Ouganda.
Comment un rebelle, là où il se cache, c'est là où il tue?
Mais c'est
et
ça.
Et pourtant, c'est là où il allait bien se protéger.
C'est là où même mon première interpellation au gouvernement congolais. Nous sommes en partenariat avec l'Ouganda. Nous avons même mutualisé les forces avec les UPDF. Comment depuis la mutualisation des forces des UPDF avec les FRDC, on ne parvient toujours pas à mettre fin à ces phénomènes des UPDF? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait déjà des années qu'on ne peut que tuer à Lubero, qu'on ne veut que tuer à Beni, qu'on ne fait que tuer à l'est du pays. Entre-temps, nous avons un gouvernement ougandais qui est là, vous avez un gouvernement congolais qui est ici, nous n'avons que de promesses sur promesses. Ils disent, ils signent des accords, mais ces accords qui ne sont toujours pas respectés. Jusqu'à présent, aucun gouvernement, que ce soit le gouvernement congolais, ne nous a encore bien expliqué la situation des EDF à l'est du pays. Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Parce qu'ils ne sont pas des Congolais. Ils proviennent de l'Ouganda.
Est-ce que ce n'est pas une politique de vouloir semer la terreur pour qu'on puisse peupler ces endroits par d'autres personnes?
Ce sont des questions que nous nous posons en tant que Congolais, surtout en tant que journaliste. Je me dis, ça doit être une stratégie qui est bien amplifié par les deux gouvernements. Là, je n'épargne ni le gouvernement congolais, ni le gouvernement ougandais. Peut-être qu'ils ont fait un deal que nous ne comprenons pas, parce qu'on ne peut pas comprendre dans un État bien organisé, où nous avons une armée formée, où nous avons le gouvernement, que l'on voie les gens venir s'installer sur notre sol, tuer nos frères et tuer nos sœurs, nos amis, nos concitoyens, mais le gouvernement reste calme. La première des questions que je vous ai dit tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement congolais n'a pas décrété un deuil national. Et la deuxième question que je me pose, c'est de savoir pourquoi on ne tue pas en Ouganda. Est-ce que le gouvernement congolais a des explications à donner au peuple congolais? Pourquoi les EDF ne tuent pas en Ouganda? C'est là aussi la première des questions. Mais je voudrais aussi vous dire qu'il y a un problème aussi de notre armée. Au-delà de tout, nous pouvons parler de la tuerie des EDF qui viennent d'ailleurs, ce sont des milices qui viennent s'installer au pays, qui tuent nos concitoyens, mais nous avons un problème. Est-ce que notre armée est bien organisée? C'est ça aussi des questions que nous nous posons. Et nous avons tant posé ces questions au gouvernement congolais qui nous parle d'une armée professionnelle, bien entendu. L'FRDC n'est pas quand même une milice, c'est une armée bien organisée, bien structurée et qui a ses postes de commandement. Mais il savait qu'il y a un problème sérieux au sein de l'armée nationale. L'armée aujourd'hui n'est pas bien formée. L'armée, au-delà de tout, elle n'a pas une possibilité de mettre les EDF en pâturage. Pourquoi? Parce que, il y a un problème de l'organisation et cela dépend de Kinshasa. Je trouve qu'il y a un problème au sein du gouvernement congolais qui ne veut pas mettre en place une bonne politique de gestion de nos militaires qui sont là. Représentez-vous, vous avez un bataillon, pardon, qui a au moins 150 militaires, mais quand le rapport arrive ici à Kinshasa, on vous parle de 300 000 militaires. J'aurais souhaité que le gouvernement congolais, au fur et à mesure que les choses évoluent, parce qu'on continuera toujours qu'à tuer au moment où nous ne serons pas organisés, au moment où l'armée congolaise ne sera pas organisée. Il faudra que l'État congolais prévoie des missions, qu'il descende sur terrain et qu'on forme d'abord l'élite. Aujourd'hui, l'armée qui est là, et les personnels qui sont là, qui sont devenus deux fois comme des chefs coutumiers. Vous avez deux militaires qui ont été placés là-bas, ça fait des années, et qui se sont familiarisés avec les EDF. Voilà pourquoi tout le temps, même quand les EDF viennent attaquer, ils ne parviennent pas à pouvoir les contrecarrer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont déjà des amis. Ils se sont mariés. Le gouvernement congolais devrait diligenter des missions pour répertorier d'abord les militaires qui sont au front. Est-ce qu'il convient exactement de rester au front ou il faut les changer? Et s'il faut les changer, comment est-ce qu'il faut faire pour apporter encore un peu de plus, c'est-à-dire recruter les jeunes qui sont encore, qui ont encore l'esprit patriotique en eux, les jeunes qui ont encore la possibilité, la force de pouvoir défendre notre peuple, et à ce moment-là, peut-être le former et les envoyer au front pour contrecarrer les EDF, parce
Merci
que ça ne se conçoit pas que les EDF continuent à tuer, ils tuent des années et des années, mais nous avons un gouvernement qui ne parvient toujours pas à mettre fin à cette situation.
Merci Israël, je vais vous redonner la parole. J.R. Mokolo, comment est-ce que vous vous analysez, vous trouvez cette situation de tout à Beni, maintenant c'est à Lubero, avec ce qu'Israël a dit, la société civile de Beni, à son temps, avait demandé au gouvernement Joseph Kabila de procéder à la relève des militaires envoyés dans cette partie. Ça a causé du tort à ces acteurs de la société civile qui ont même fui Beni. Pourquoi on tue à Beni et à Lubero maintenant?
C'est en tout cas difficile de pouvoir pour répondre à cette question. Ce sont les tueurs, si on les avait arrêtés, qui pouvaient quand même nous éclairer, éclairer la justice sur les motivations de leurs actes. Parce que ça dépasse tout entendement que des humains créés par Dieu, mortels comme nous tous, c'est donc, ça donne comme ça cœur joie à massacrer régulièrement d'autres humains comme eux. Je me pose la question de savoir si nous avons été créés par le même Dieu. C'est la question que je me pose. Et nous sommes vraiment dévastés par les nouvelles qui viennent de l'Est. Parce que depuis pratiquement la guerre de l'AFDEL, depuis qu'on nous a promis la libération contre la dictature de Mobutu, notre pays est devenu un véritable abattoir d'êtres humains. Donc il ne se passe pas une journée, une semaine, un mois sans qu'on déplore des tueries, des massacres à gauche et à droite.
Mais il faut dire qu'il y a la présence de militaires ougandais dans la zone Lubero, Beni, jusqu'à même Bounia. Mais vous voyez ce qui se passe.
Bon, il y a un principe qui veut que la faiblesse des uns fasse la force des autres.
Ça signifie quoi?
Ça veut dire que les Ougandais qui sont venus là, est-ce qu'ils sont vraiment venus pour nous sauver, pour nous aider à nous débarrasser des EDF? Je crois que leur préoccupation, c'est quoi? Empêcher à ce que ces EDF ne puissent retourner en Ouganda pour causer du tort aux Ougandais. Tant qu'ils sont au Congo, tant qu'ils tuent les Congolais, je crois que ils sont tranquilles. Parce que s'ils étaient vraiment venus pour nous aider à nous débarrasser des rebelles ougandais comme ils l'ont fait, je crois que la solution aurait été trouvée depuis longtemps. Et puis, Freddy Bikumbi, il faut savoir que les soldats étrangers n'ont pas vocation à mourir pour un pays qui ne lui appartient pas. La responsabilité première de pouvoir sécuriser les territoires congolais et ses habitants incombe au gouvernement congolais qui dispose d'une armée. Donc, le véritable souci que devra animer nos dirigeants, c'est comment nous doter d'une armée forte, capable de pouvoir sécuriser les territoires nationaux et de pouvoir défendre les citoyens congolais, la population congolaise contre tous ces fauteurs de troubles. Tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes, tant qu'on n'aura pas trouvé une solution à ces problèmes, tant que nos dirigeants ne se seront pas en tout cas penchés sur cette question-là, je crois que les tueries vont continuer.
Qu'est-ce qui manque au Congo?
Mais ce qui manque au Congo, c'est des bons dirigeants.
Moi, je vis ici à Kinshasa,
qui sont soucieux de l'intérêt général et qui font un grand travail de mettre à disposition du Congo une armée véritablement républicaine, une armée dissuasive, efficace, qui fera réfléchir deux fois à tout agresseur avant de nous attaquer. Parce qu'il n'y a pas que la LRA, il n'y a pas que les EDF, il y a une multitude de groupes armés locaux. Aujourd'hui, il y en a qui ont réussi, par exemple, à devenir des Wazalendo, bon, qui ne font plus du mal aux Congolais, qui disent défendre les Congolais. Bon, ils sont armés, ils sont financés par le gouvernement. Mais demain aussi, s'ils ne trouvent pas leur compte dans les négociations qui se font à Doha, à Washington, ils risquent-ils pas de se retourner contre la RDC et poser encore un problème? Donc, la solution, ce n'est pas de recourir aux troupes étrangères. La solution, ce n'est pas de recourir à d'autres groupes armés pour combattre les autres groupes armés. La solution, c'est nous devons nous doter d'une armée véritablement républicaine, une armée efficace à qui on donne tous les moyens et une armée constituée de militaires bien formés, patriotes, motivés. C'est ça la solution.
César Lombo, comment est-ce que vous voyez on tue à Beni, à Lubero, à l'est de la RDC?
Alors moi, d'entrée de jeu, je dois présenter mes condoléances à tous les habitants de Lubero et de Beni, parce que ça devient une chanson, ça devient un refrain, parce que chaque jour, on compte les morts dans l'est de la RDC, mais souvent, il n'y a pas de solution. Et cela est devenu comme un fait divers. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays où plus de 90 personnes qui tombent en moins de 2 jours, mais que l'État ne puisse pas organiser un deuil national. Que l'État ne puisse pas organiser...
Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ça les touche au fond du cœur?
C'est ça mon interrogation. Parce que je me dis que nous, Congolais, est-ce que sommes-nous conscients de ce qui nous arrive dans cette partie du pays? Parce que les gens qui vivent dans ces provinces-là sont des Congolais. Est-ce que le gouvernement peut-il aujourd'hui expliquer ne fût-ce qu'aux autres citoyens qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ces 2 jours-là? Parce qu'on a comme l'impression que le gouvernement a perdu le lead. Puisque parler de l'armée, oui, mais quelle est cette armée-là? Parce qu'aujourd'hui, le mal est dans l'engrenage. Ce n'est pas les moyens qui manquent au FARDC. Non, c'est plus d'un milliard qui sont disposés pour eux. Mais est-ce que ces FARDC-là sont-ils très bien formés? Est-ce qu'ils sont-ils vraiment à la hauteur de protéger la population qui sont dans l'est de la RDC? Parce que c'est ça la grosse question. Parce qu'on peut avoir tous les moyens, mais si on n'est pas formé à remplir une tâche, ça serait compliqué pour nous de pouvoir sécuriser nos frontières. Parce que les Ougandais ne sont pas venus ici en RDC pour pouvoir nous aider à neutraliser seulement ces ADF. Non, pas seulement. Ils sont venus ici pour pouvoir protéger leurs frontières. Et à ce stade-ci, les frontières semblent être sécurisées et les EDF sont maintenant dans les forêts, dans les zones un peu plus compliquées. C'est à partir de là qu'ils trouvent des moyens pour massacrer la population congolaise. Mais aujourd'hui, on doit se poser des bonnes questions parce qu'apparemment, j'estime que le gouvernement de Kinshasa ne pose pas des bonnes questions. Comment on peut perdre 90 personnes en 2 jours, mais que les gouvernements ne soient pas en mesure de nous expliquer les pourquoi et que ne nous dit pas également que comptent-ils faire pour pallier à ces situations.
Est-ce que le gouvernement a ses devoirs de vous rendre compte?
Et je pense que ça devrait être l'une de ses principales missions parce que nous sommes ses citoyens et l'information est un bien public et à cet effet, la population a besoin des explications sur ce qui se passe sur son territoire. Et ici, je crois réellement qu'il faudrait aussi les gouvernements puissent réévaluer l'opération conjointe avec l'Ouganda parce que c'est depuis 2021 que cette opération est en vigueur. Mais est-ce que le résultat est positif? C'est mon interrogation. Et il est grand temps que le gouvernement puisse évaluer cette mission et voir à quel niveau si on doit mettre fin à cela ou on doit continuer. Mais à mon humble avis, je crois qu'il faudrait que l'État puisse refonder l'armée congolaise. Ce n'est pas les hommes qui manquent dans ce pays, non. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce sont les hommes qui ne sont pas très bien formés. Ce sont les hommes qui sont pourris avec les temps. C'est les mâles et dans l'engrenage. On ne peut pas vouloir arranger une maison qui est presque totalement abîmée à son intérieur. Et là où les problèmes commencent, si l'État aujourd'hui prend le soin de refonder l'armée, je crois que ça serait l'une des solutions à ces problèmes-là.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a tiré la sonnette d'alarme mardi 9 septembre devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il a présenté les conclusions accablantes de la mission déployée en République démocratique du Congo, pointant du doigt toutes les parties impliquées dans la récente escalade de violence dans les provinces du Nord Kivu. Et du Sud Kivu, Volker Türk affirme que toutes les forces engagées dans les conflits, que ce soit le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les FARDC et les groupes armés alliés, ont commis des graves violations du droit international humanitaire et des droits humains. Il évoque aussi des crimes de guerre et, dans le cas du M23, des crimes contre l'humanité. On écoute ici Volker Türk dans ses propos choisis par Alain Irunga.
Mon équipe a aussi confirmé que le M23 a commis des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles contre les détenus. Certaines personnes ont été battues à mort ou sont mortes de blessures, d'asphyxie ou de faim et de déshydratation. D'après le témoignage, certains gardes étaient rwandais. Des milliers de civils, dont des enfants, ont ensuite été envoyés dans des camps dits d'entraînement, où ils ont été soumis au travail forcé, à la servitude militaire et à d'autres formes de torture et de mauvais traitements. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Elle a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, les groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions.
Voilà, c'était Volker Türk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Je crois que la souffrance est à la une au Congo. Comment analysez-vous le respect du droit de l'homme en RDC en tant que des journalistes congolais? César Olombo. Je rappelle que vous êtes journaliste à deskeecho.com et magazine Baptiste Afrique.
Je crois que cette question est importante, monsieur Freddy Bikumbi. La question des droits de l'homme en République démocratique du Congo, bien entendu, a régressé avec les temps, mais qu'à ce stade-ci, je crois que ces rapports-là, j'ai l'impression que c'est dit déjà entendu, c'est dit déjà vu. Parce qu'il vous souvenez qu'en décembre 2024, il y a un rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui ont dit presque les mêmes choses. Mais seulement qu'après, nous avons constaté que nous sommes toujours restés dans les statu quo, rien n'a évolué. Mais est-ce qu'on doit-on toujours accorder la même attention à ces rapports? Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est mieux de poser des questions, mais c'est encore plus mieux d'apporter des solutions.
Puisque donc ces rapports-là ne changent rien?
Ces rapports-là,
ça éclaire quelque chose?
Je crois que ça devient secret des polichinelles. Chaque année qui passe, nous avons des rapports qui tombent, mais seulement que la situation sur terre reste la même. Et qu'on a comme l'impression que on ne se soucie pas des personnes qui tombent chaque jour dans la partie est du pays. C'est depuis 1996 que l'est de la RDC est devenu un abattoir. Et ça, au vu de tous. Mais seulement que la prise de conscience aussi pour le gouvernement de la RDC doit être parmi sa priorité. Parce que aujourd'hui, l'est de la RDC est menacé. Nous sommes partis à Doha.
Que faut-il pour protéger cette population civile?
Je l'ai déjà dit, dans ce pays, on ne peut pas compter sur les autres et qu'on devait refonder l'armée congolaise. Parce que l'armée congolaise est forte, mais seulement que dans son sein, il y a les mâles déjà là, donc il y a les mâles dans l'engrenage. Seulement qu'à ce stade ici, nous sommes dans les statu quo, ces rapports-là viennent justement dire ce que tout le monde sait déjà, mais qu'actuellement, on devait par contre solutionner ces problèmes qui perdurent. Ça fait plus de 30 ans que ces guerres-là est là, et permanente, mais seulement qu'on ne nous aide pas à en finir. On n'arrive pas à bout de cette guerre. Et aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Parce que à Doha, les pourparlers avec le gouvernement de Kinshasa est presque à l'arrêt.
Non, c'est un secret.
Non, ça c'est pas sa coulisse, mais on le sait tout le monde. Quand vous avez les M23 prend le plus de 8 villages au niveau des Massissi, est-ce un secret ou bien c'est une réalité? Parce que je dois vous rappeler qu'au cours des débuts de cette semaine, les M23 a conclu plus de 8 villages au niveau des Massissi. Alors que ces M23-là est en négociation à Doha avec le gouvernement de Kinshasa. Est-ce que sommes-nous conscients de cette situation? Ce n'est pas un secret. On le sait tous qu'il y a un blocage à ces stades-ci et que les M23 veulent imposer la loi parce qu'aujourd'hui, il s'est dit que pour bien négocier, il faut avoir un peu d'avantage sur son ennemi afin de pouvoir lui imposer sa loi. Et c'est ce qui arrive au gouvernement congolais. Mais actuellement, ici, le gouvernement congolais ne devrait pas seulement compter au soutien.
Mais les Congolais sont naïfs?
Je n'ai pas envie de dire ça. Les Congolais ne sont pas naïfs. Ce sont les gouvernements qui ne prennent pas ses responsabilités. Et à ce stade ici, l'État congolais ne devrait pas seulement compter sur l'interventionnisme militaire des États-Unis, parce que croyez-moi sur parole, ça n'arrivera pas maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on essaie on essaye de négocier. Oui, mais faites quelque chose sur le terrain. Renforcez la force militaire, l'offensive militaire pour contre votre ennemi afin d'avoir les mêmes forces d'égalité sur la table des négociations ici, en ces stades-là et en ce moment-là que nous pourrions discuter à armes égales.
Merci. Gérard Mokolo, journaliste ici à Kinshasa, comment vous voyez l'état de droits de l'homme en République démocratique du Congo, et vous avez suivi les hauts commissaires de Nations Unies aux droits de l'homme?
Bon, je me rappelle que sous Kabila, nous avions des organisations de défense des droits de l'homme qui ont fait un grand travail, qui ont interpellé le gouvernement. Et nous, nous croyons qu'avec l'avènement d'un nouveau régime, nous allions sûrement avoir une évolution positive en matière de respect des droits de l'homme. Je me rends compte que la situation n'a pas été améliorée. L'état des droits, qui implique le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles en tout cas, ne sont pas respectés au Congo. Tu te rappelles comment Stanley Bujakira Tshamala avait été ramassé à l'aéroport de Ndjili pour se retrouver dans des cachots? Vous vous rappelez dans quelle
condition ce journal était trempé dans une situation
Est-ce que vous vous rappelez dans quelles conditions vivent nos prisonniers? Il y en a un ancien confrère journaliste aussi, Jacquindala. Dans quelles conditions il se trouve?
Qui?
En prison?
Non, mais s'il vous plaît, il faut corriger ça. Jacquindala n'est pas un journaliste.
Bon, je dis un ancien journaliste.
Oui, merci.
Voilà. Mais même s'il n'est pas journaliste, mais il est
citoyen congolais. C'est un acteur politique. C'est un acteur politique.
Voilà. Mais est-ce qu'il a droit d'être traité comme on le traite? Revenons maintenant sur le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Moi, ça ne m'étonne pas, comme l'a dit le confrère. C'est le même rapport qu'on fait régulièrement. Et moi, ça ne m'étonne pas que. On peut s'épingler, par exemple, les groupes armés comme l'M23. Ce sont des hors-la-loi. Et les hors-la-loi ne respectent pas la loi.
Mais on a parlé aussi des Ouazalendo qui répliquent.
Bon, les Ouazalendo, c'est une, pratiquement une nébuleuse qui est constituée d'anciens éléments de forces négatives. Est-ce qu'ils ont été formés? Est-ce qu'ils ont été recyclés pour qu'ils se comportent en militaire? Ce ne sont pas des militaires, ce sont des miliciens. Donc, ils ne connaissent pas les droits de l'homme. Et moi, ce qui me fait mal, qu'on nous apprenne que voilà, même le FARDC aussi, on leur reproche les violations des droits de l'homme. Mais en principe, un militaire, quand il est formé, on le forme aussi sur des notions des droits de l'homme. Donc la solution pour que nous puissions avoir un État qui fonctionne normalement, un État qui respecte les droits de l'homme, il faut que nous puissions mettre fin à la guerre. Parce que la plupart des cas de violations des droits de l'homme, nous avions reconnu ici que la RDC, depuis l'entrée de l'AFDL est devenue un abattoir d'êtres humains. La solution, c'est rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, avoir des dirigeants qui sont souciés du sort de la population, pas des dirigeants qui ne pensent qu'à se servir dans les institutions, dans les caisses de l'État, mais qui ont comme première préoccupation servir la population et assurer le bien-être général de la population.
Israël Toumba, journaliste à la chaîne Ebosolo ici à Kinshasa, vous avez vu le haut commissaire de droits de l'homme présenter un rapport sur l'état de la dignité de l'homme en RDC. Qu'en dites-vous?
Je ne veux pas revenir sur ce que les confrères ont parlé ici à ce qui concerne le rapport des Nations Unies qui, à la fin de chaque année, au moins nous avons un rapport. À la fin de chaque trimestre, nous avons un rapport, mais ce rapport-là qui ne sert absolument à rien.
Pourquoi
ça ne
sert à rien?
Les questions que nous devions nous poser, c'était de savoir, après le rapport, qu'est-ce qui doit s'en suivre? Vous avez dénoncé, c'est bien, c'est comme le gouvernement congolais que j'ai toujours aimé, lorsqu'il veut dénoncer, il dénonce. Mais à la fin, quelles sont les actions? Les actions ne sont pas posées. C'est ça le plus grand problème. C'est bien de faire cette chanson chaque année, chaque trimestre du rapport. Tel a tué, tel a violé les droits de l'homme, celle-ci a fait ceci, on a déshumanisé.
S'il vous plaît, Israël, s'il vous plaît.
Oui.
Comment vous, journalistes, vous parlez que c'est le même rapport qui arrive? Vous le lisez?
Bien sûr, en 2024. En 2024, c'est récemment.
Alors, en 2024. Que doit faire le Congolais pour qu'enfin on respecte les droits humains dans leur pays?
D'abord, la première des choses, c'est la prise de conscience. Le gouvernement congolais et les citoyens congolais devraient d'abord prendre conscience. D'abord,
Je voudrais assez qu'on revienne avec la situation des actuels dirigeants. Vous savez, lorsque le président actuel a pris le pouvoir en 2018, c'était son champ de bataille, Félix Tshisekedi. Il parlait de la restauration de l'état de droit, des droits de l'homme, des droits humains. Nous croyions qu'avec l'avènement de l'UDPS à la tête du pays, peut-être quelque chose devrait changer. Par les affres que nous avions vécues autrefois, nous croyions peut-être que cette année ou cette fois-ci, avec l'avènement d'actuels dirigeants, on devrait avoir un nouveau souffle. Mais malheureusement, nous nous replongeons encore davantage dans ce que nous avions décrié il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est ça le plus grand problème. Et aujourd'hui, lorsque même nous parlons des exactions...
Mais pourquoi les Congolais, eux, ne réagissent pas face à cette léthargie?
Non, dire que les Congolais ne réagissent pas, c'est faux, mais moi je suis Congolais, j'ai réagi. Le problème c'est que, est-ce que même si nous réagissons, est-ce que nos voix sont entendues par les autorités? C'est ça le plus grand problème. Les exactions, confrère Bikumbi, qui se commettent aujourd'hui à l'est du pays, là vous avez peut-être pris un cas isolé de l'est du pays, mais vous avez ici Kinshasa, siège des institutions, où il y a la présidence de la République, où toutes les institutions sont là, mais il faut voir combien on viole les droits humains ici à Kinshasa. Vous avez déjà vécu comment on arrête les gens ici? Par des policiers qui sont censés protéger la population kinoise, la population congolaise. Est-ce que vous voyez comment ils ramassent des gens? On vous a donné ici l'exemple de notre confrère Stanis Mujakera, comment il a été ramassé sans respect des droits humains. Les Congolais ne réagissent pas, c'est faux. Nous, en tant que Congolais, nous décrions. Nous demandons à la sécurisation. Vous savez, la mission principale d'un État, c'est de protéger la population. De protéger ses concitoyens et leurs biens. Mais est-ce que c'est ce qui se passe ici en République démocratique du Congo? Non. Le rapport qui a été donné par les Nations Unies, oui, c'est un rapport vrai. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on pointe du doigt les Wazalendo, qui travaillent aujourd'hui en connivence avec l'armée nationale, vous savez bien, les Wazalendo, c'est une milice. Ça, on ne peut pas s'évaler la tâche. Mais ils sont là en renfort avec les FARDC. Si aujourd'hui, ils parviennent à commettre des exactions, oui, certainement, parce que ce sont des milices, mais qui travaillent peut-être pour aider le FARDC,
concluez.
Qui, à un certain moment, ont failli. Moi, j'aurais souhaité que le gouvernement congolais, pour qui on est en train aujourd'hui d'acquiser, par tous les rapports, parce qu'aujourd'hui nous avons eu le rapport, au moins pour la première fois qu'on acquise l'armée congolaise d'avoir commis ces exactions en 2025. Alors, c'est cette responsabilité qui revient à l'armée congolaise devrait tomber aux dirigeants de cette armée, de refondre l'armée, de revoir l'armée. Comment est-ce qu'on peut réformer l'armée avec des nouvelles unités, avec des personnes compétentes, et ne pas flouer les chiffres, le nombre des éléments, alors qu'au front, les éléments qui sont le nombre d'éléments qu'on envoie ou qu'on nous fait voir à travers la télévision, ainsi que d'autres rapports par le gouvernement congolais, ne reflètent pas la réalité qui est sur le terrain. Mais j'aurais souhaité que le gouvernement congolais prenne des responsabilités, qu'il recycle ceux qui sont aujourd'hui dans l'armée nationale, même dans la police nationale congolaise, pour permettre à ce que la population soit protégée et que les droits humains aussi soient garantis tel que la constitution l'oblige.
Que faire pour la dignité d'un Congolais?
Je crois que le peuple congolais doit demander plus qu'il ne demande maintenant, parce qu'on se rend compte avec les temps que le peuple congolais ne donne plus d'énergie à ce qui concerne la chose publique. Le peuple congolais est tombé dans la léthargie parce qu'il s'est dit: Quoi que je dise, les gouvernements ne m'écoutent pas. Mais qu'à ce stade-ci, ils devraient beaucoup plus s'imposer par des mesures un peu plus rigoureuses par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'État sait que la population est dans la léthargie et lui aussi, il est dans la grande somnolence parce qu'il s'est dit que personne ne va me poser des questions. Mais si aujourd'hui, le peuple congolais pour poser des bonnes questions au gouvernement et demander plus qu'il ne les demandait, le gouvernement pourrait trouver des solutions au problème.
J.R. Mokolo,
oui,
concluez.
Que le chef de l'État puisse en tout cas réaliser sa promesse de pouvoir, par exemple, humaniser nos services de sécurité, que ce soit des services qui recherchent les informations, bien sûr, pour la sécurité nationale, mais qui tiennent compte aussi, en tout cas, du respect des droits de l'homme, et que quand on arrête quelqu'un, qu'on doit les traiter dignement, on ne doit pas les traiter comme un animal qu'on doit abattre. En plus de cela, que les activistes des droits de l'homme, Akaj, la Voix des Sans Voix, Lazado et les autres, puissent en tout cas faire leur travail comme ils faisaient à l'époque de Kabila. On a vu vraiment qu'ils dénonçaient.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour la tribune des presses de ce jour. Merci à toute l'équipe du dialogue intercongolais, supervisée par Kelly Kouté. À la technique, c'était Patrick Kiasongwa et Pierre Diasinois. Au micro, Freddy Bikumbi Ignace. Restez à l'écoute de la radio Okapi.